merci beaucoup, Père Boris, pour ce très très riche exposé et les questions que vous avez posées. Malheureusement, le temps manque et on pourrait rebondir notamment sur cette question d'une onction éternelle et souligner qu'effectivement, aussi bien chez les pères grecs que chez les théologiens byzantins, on ne trouve pas ce thème de l'onction éternelle. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'on ne pourrait pas extrapoler à partir de l'onction du Christ et dire que cette onction éternelle est représentée par ce thème du repos?
C'est ce que fait Blémidès dans le texte que vous venez de lire.
C'est ce qu'il fait en pointillé, mais dans son dernier texte, dans son traité.
Il le lit à l'économie.
Il le lit à l'économie, bien sûr, parce qu'il part de la réalité de l'économie, bien entendu. Mais dans son dernier traité sur la foi, il souligne bien que le thème de l'onction est nécessairement lié à l'humanité du Christ. Voilà, sur ce, je passe la parole à notre dernier intervenant. Donc, Joost van Rossum.
Dans son livre « Byzance et le christianisme », Olivier Clément écrit que l'histoire de la théologie byzantine a connu deux cycles principaux. Un cycle christologique, c'est-à-dire durant l'époque des conciles œcuméniques, et un cycle pneumatologique, depuis le IXe siècle. Dans les discussions théologiques entre Byzantins et Occidentaux, après le schisme de l'Église de Rome avec l'Église de Constantinople, le premier sujet à être discuté était en effet le filioque, sauf au Concile de Florence, où on commençait par parler du problème de purgatoire. Et évidemment, parce qu'on pensait que c'était un sujet petit et facile. Mais aussi au Concile de Florence, le sujet principal à aborder fut le filioque. C'était le patriarche Photius qui, le premier, a donné une réponse théologique à l'adjonction des mots « et du Fils » par les Francs, mais pas encore à Rome à cette époque, après la clausule dans le symbole de la foi sur le Saint-Esprit qui procède du Père. D'abord, dans son encyclique aux patriarches orientaux, écrit après le roi de Bulgarie, Boris avait chassé le clergé byzantin de son pays, ayant changé sa politique ecclésiale et cherchant de s'allier avec le pape Nicolas Ier. Dans son pays se trouvaient des missionnaires francs qui enseignaient tous le filioque. Le clergé byzantin, chassé de la Bulgarie, accusait les francs d'hérésie. Et cela explique la réaction du patriarche de Constantinople. À la fin de sa vie, Photius écrit un traité systématique contre le filioque, le premier traité systématique sur ce sujet, la mystagogie du Saint-Esprit. La chose remarquable de ce livre est le fait qu'il paraît que ce grand patriarche n'était pas systématiquement anti-occidental. Il se réfère au pape et au père latin, qui, Photius dit, n'ont pas enseigné le filioque. Il même prend la défense de saint Augustin, qui fut cité par ses adversaires en disant « Qui peut savoir avec certitude si ses ouvrages n'ont pas été interpolés ?» Pour les théologiens francs, l'autorité principale pour la théologie trinitaire était en effet ce grand-père de l'Église en Occident, saint Augustin. Dans ce conflit entre Photius et cet adversaire, deux théologies trinitaires se rencontrent, celle de la De Trinitate d'Augustin, avec comme point de départ la substance divine, dans laquelle se trouvent les trois personnes divines, et celle des pères grecs, notamment des pères cappadociens, avec leur insistance sur la monarchie de Dieu le Père, et la distinction entre les personnes divines avec leurs propres caractéristiques. Photius accuse les Francs de sabellianisme, ou mieux, sabellianisme. Il dit le monstre semi-sabellien. car leur hérésie principale est de confondre les trois personnes divines et de confondre les propriétés hypostatiques qui n'appartiennent qu'à une seule hypostase d'un côté avec celle de la nature de Dieu de l'autre côté qui appartiennent à toutes les trois personnes divines. Soyons clairs, Augustin n'était pas sabellien et ne voulait pas l'être. Il a attaqué explicitement cette hérésie de sabellinisme. Mais il existait un danger que son système trinitaire pourrait être interprété dans ce sens. Et Photius a vu lucidement que cela était le cas si les arguments théologiques des Francs. Le grand patriarche a développé ses arguments théologiques dans un contexte polémique, en réaction contre la théologie trinitaire des Francs. Cela explique le fait qu'il s'est gardé de développer ses réflexions théologiques sur les relations éternelles entre les trois personnes divines. Il ne nie pas qu'il existe une relation éternelle entre le Fils et le Saint-Esprit. Dans sa mystagogie, Photius traite du texte de saint Paul, l'Esprit de son Fils, Galates chapitre 4, vers 6, et il explique que ce texte a en vue la consubstantialité éternelle de l'Esprit et du Fils. De même pour les mots du Christ, il prendra du mien, l'Évangile de Jean, chapitre 16, vers 14, ce qui veut dire, Photius explique, ne pas que l'Esprit prendra de la personne du Christ, parce que dans ce cas, le Seigneur aurait dit, il prendra de moi, mais qu'il prendra de leur nature consubstantielle. Si Photius, l'accent est mis sur l'économie divine. Le patriarche sait et enseigne que dans la vie divine, les trois personnes divines ne sont pas isolées les unes des autres. Mais le patriarche se garde de dire de plus sur ce mystère. La mystagogie de Photius sera l'autorité principale pour les Byzantins en ce qui concerne la discussion sur le filioque. Un vrai développement et approfondissement de la théologie du Saint-Esprit commence au XIIIe siècle avec Nicéphore Bémides. Nous célébrons ce soir l'édition et la traduction de ses œuvres théologiques par Michel Stavrou. Déjà notre ancien professeur de l'histoire de l'Église byzantine, le père Gabriel Patacci, s'était occupé de la théologie de cette période. Je suis donc aussi heureux, et c'est le moment de penser à lui aussi ce soir. Il avait commencé de faire une étude des œuvres d'un certain Hirotée. C'est presque sûr, père Gabriel Patacci dit, que Hirotée a été un élève à l'école du monastère de Blamides, près d'Éphèse. Et Hirotée se réfère à Blamides comme un savant et un saint. Le résultat de la recherche du père Gabriel fut un article bien élaboré sur le Hiromane Hirotée, théologien du Saint-Esprit, qui apparut en 1981, publié dans Cléronomia, 2 années avant sa mort prématurée en 1983. Les textes de Hirotée ont été récemment édités par le père Nicolas Ioannidis, publié en Grèce. Et Michel fait mention aussi de cette œuvre de père Gabriel dans son livre. Le contexte historique de ces discussions théologiques entre Byzantins et Latins est l'occupation de Constantinople par les Latins qui fut la conséquence de la 4e croisade. L'empereur byzantin en exil, qui résida à Nicée, avait l'espoir qu'il pourrait encore résider avec son patriarche à Constantinople après que la réunion de l'Église byzantine et l'Église latine serait accomplie. Et ça explique donc les rencontres théologiques entre byzantins et latins dans cette période. En 1234, une première rencontre avait lieu entre une délégation latine et des théologiens byzantins à Nicée et à Nymphée, la résidence de l'empereur. Bemides a joué un rôle dans la première de ces discussions. Le sujet principal était le filioque. Mais cette première rencontre fut un échec. Ces discussions étaient un échange finalement d'anathèmes, les uns contre les autres. Ensuite, en 1274, le pape Innocent IV, qui était désireux de s'approcher des Grecs pour des raisons politiques, il avait besoin de soutien des Byzantins contre Frédéric II de Hohenstaufen, envoya une délégation à Nicée. Des discussions officielles ont lieu en 1250 à Nymphée. Blémides intervint encore pour défendre le point de vue orthodoxe. Ici, l'atmosphère était plus sereine qu'en 1234 et les Byzantins envisageaient déjà un concile œcuménique pour restaurer la réunion des deux églises. Cependant, toutes ces négociations s'achevèrent brutalement avec la mort de tous les protagonistes de cette histoire en 1254, l'empereur, le patriarche et le pape, la même année. C'est dans la période qui suit à ces discussions que Blamines va de plus en plus souligner la doctrine ancienne des pères grecs, selon laquelle l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Le dernier texte de ce volume, donc qui est célébré ce soir, contient une lettre de Blamines à son élève, l'empereur Théodore II Lascaris, qui fut empereur de cette brève période de 1254 au 1258. La lettre doit avoir été écrite en 1255 environ. Michel explique tout ça dans l'introduction à ce texte. Le contenu de cette lettre montre qu'il y a eu à cette époque une discussion sur l'expression « par le Fils ». Pour citer Blamines dans la traduction de Michel, je cite « Récemment, il est arrivé à certains une chose très ridicule, ou pour mieux dire très déplorable. Voulant en effet de façon excessive supprimer l'expression à partir du Fils, ils ont supprimé en même temps l'expression par le Fils. Quant au enseignement de tant de saints, là où l'occasion se présentait, ils les ont déformés. Mais là où nulle occasion ne s'offrait, ils les ont écartés. Donc il s'avère que ceux qui ne pouvaient pas accepter la formule par le Fils avaient falsifié les écrits du Père. Ou bien ils ont les simplement supprimés. Or, cette lettre est une réponse de Blamides au savant empereur et à son ancien élève concernant la question sur ce texte des Pères de l'Église, la procession du Saint-Esprit du Père par le Fils. Et Nicéphore commence dans ce texte, cette lettre à l'empereur, par dire, je cite, « La procession est pour le Saint-Esprit le mode d'existence ou le caractère propre hypostatique comme la génération n'est pour le Fils et la non-génération pour le Père. » Autrement dit, pour Blamines, le mot « procession » ne dénote pas seulement l'origine hypostatique du Saint-Esprit, l'origine du Père, mais aussi son existence éternelle dans la vie trinitaire de Dieu. Disant cela, Blamines ne voulait pas du tout défendre ou enseigner le filioque. Michel l'a souligné à juste titre à plusieurs reprises dans son excellente introduction. Nulle part dans ses écrits on peut lire que le Fils serait une autre cause du Saint-Esprit à côté de Dieu le Père. Seulement le Père est le seul principe du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela dit, Blamines veut souligner que l'Esprit Saint, qui procède du Père seul, n'est pas isolé du Fils. Or, je cite encore, « C'est par le Fils que l'Esprit existe d'auprès le Père, parapatros. » Cela, Blamines dit, est une doctrine commune confiée à l'Église de Dieu. Néanmoins, Blamines fut souvent mal interprété au XIIIe siècle par les latinophones au temps du Concile de Lyon comme étant un philoquiste et aussi par des savants modernes comme un théologien ambigu, car il parle tout d'une haleine, non seulement de l'origine hypostatique du Saint-Esprit, qui est la personne du Père seul, mais aussi de son existence éternelle avec le Père et le Fils. Plus tard, Saint Grégoire de Cypre trouvera le vocabulaire pour distinguer plus précisément entre l'origine hypostatique du Saint-Esprit, du Père seul, et son existence trinitaire avec le Fils et le Père. Peut-être on peut voir ici, je pense, un correctif de Blamides par le grand patriarche Grégoire. En tout cas, il est clair que Nicéphore ne voulait pas défendre le filioque. Dans cette lettre, il ne s'agit pas de faire des ouvertures au latin, mais seulement d'expliquer à ses co-religionnaires le sens de l'expression patristique « procession du Saint-Esprit à partir du Père par le Fils ». Le fait qu'il est souvent mal interprété est aussi dû à son style. Michel fait remarquer dans son introduction, je le cite, la complexité, la concision et l'aspect parfois amphibologique, ça veut dire ambigu, des formules de Blamides explique la difficulté d'interprétation de sa pneumatologie. Son style est souvent elliptique. Cela peut être aussi expliqué du fait que ses œuvres théologiques sont des écrits de circonstances, comme la lettre dont je parle, à son empereur et ancien élève, qui a été écrit dans des circonstances difficiles pour lui. Dans l'introduction de cette lettre, Blamines écrit, se plaigne qu'il fut en ce moment occupé d'autres choses, d'autres sujets d'étude, et qu'il est forcé de répondre aux questions du jeune empereur malgré notre corps mal en point. Donc il se sentait malade. La pensée théologique de Blamines est une pensée dynamique qui est toujours en train de se développer. Ses œuvres théologiques sont des écrits de circonstances, comme Michel fait remarquer. Comme son style est elliptique, avec des phrases non achevées, souvent, de même, sa théologie pourrait peut-être caractérisée par une théologie elliptique qui doit être précisée et complétée. J'ai déjà mentionné Saint Grégoire de Cypre qui, il semble, a fait un correctif à Blamides, distinguant plus clairement entre l'origine hypostatique du Saint-Esprit, de Dieu le Père, et son existence éternelle avec le Père et le Fils. Un autre exemple est la relation entre la théologie dans le sens patristique de Trinité immanente, et l'économie divine. Aussi dans ce cas, c'est encore Grégoire de Cypre qui a souligné plus clairement que Blamides qu'on ne peut pas confondre ces deux niveaux de parler de Dieu. Finalement, il se trouve aussi un autre passage dans cette lettre où il paraît que les réflexions théologiques de Nicéphore sont toujours en train de se développer. Blamides cite un texte de Saint Athanase où l'Esprit Saint est appelé l'image, icône en grec, du Fils. Certains de ses adversaires ont demandé à Plamides, je cite, « Comment l'esprit est l'image du Fils ? S'il en est ainsi, il deviendra en tout semblable au Fils. » Et Plamides répond simplement que, je le cite, « Toute image diffère nécessairement de son archétype en quelques points. » C'est un argument de Saint Jean Damascène contre les iconoclastes. Cependant, dans sa réponse, Plamides ignore le fait que le mot « image », « icône », appliqué à la Trinité par le Père de l'Église, Saint Athanase par exemple, doit avoir un autre sens que l'icône du Christ et des saints qu'on vénère ici sur terre. Dans ce dernier cas, il s'agit de la différence de la nature matérielle de l'icône qu'on vénère et son modèle ou archétype divin ou céleste. Tandis que, appliqué à la Trinité, le mot « image » ou « icône » est au contraire une façon de parler de la consubstantialité des personnes divines. Or, je veux simplement dire, la question des adversaires de Plamides sur cette expression « l'Esprit Saint, image du Fils » avait un sens. Il y a un problème qui doit être expliqué. Mais une simple référence à la théologie de l'icône à l'époque de l'iconoclasme ne suffit pas, parce qu'il s'agit de deux icônes différentes, hein, l'icône matérielle qu'on vient ici et la vie trinitaire. Il est incontestable que Nicéphore Plamides reste un théologien clé dans l'histoire de la théologie byzantine. Avec lui, un approfondissement de la théologie orthodoxe commence sur le mystère du Saint-Esprit et de la Trinité dans les derniers siècles de l'Empire byzantin. Tous ceux qui étudient l'histoire de la théologie byzantine seront très reconnaissants à notre collègue Michel Stavrou de nous donner cette édition critique de ce texte théologique, avec aussi une introduction à sa théologie. Et on attend maintenant avec passion la parution du deuxième volume. Grâce à cette édition critique, on sera finalement capable de donner une validation plus correcte de ce théologien, qui a été la victime des malinterprétations et des accusations injustes au cours des siècles. De plus, après la parution du deuxième volume, il nous attend une tâche d'étudier de nouveau, en profondeur, les liens entre la théologie de Plamides et les théologiens byzantins après lui, comme Hiérothée, Grégoire de Cypre et finalement Saint Grégoire Palamas. Palamas, c'est presque sûr qu'il a lu Plamides. Pour le moment, il faut s'arrêter ici et encore remercier Michel pour ce travail de patience et de rigueur et de précision qui est l'édition des anciens manuscrits.